Vous écoutez France Culture.
Et le journal est présenté par Maria Melkurdi.
Bonjour, un SOS lancé aujourd'hui par des milliers de personnes à travers le monde, notamment en France. Ces citoyens alertent sur le dérèglement climatique. Dans les colonnes de Libération, 700 scientifiques appellent les pouvoirs publics à réagir. Un autre SOS aujourd'hui, celui des recalés de Parcoursup. Ils sont un peu plus de 7000 jeunes inscrits sur la plateforme à n'avoir aucune affectation pour la rentrée. Ils peuvent encore agir. Sonia Bourane nous expliquera comment. Dans ce journal, direction l'Égypte, où le photojournaliste égyptien Shaokan, 30 ans, vient d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement. La justice lui reproche d'avoir pris des photos lors de la violente dispersion de manifestants qui soutenaient le président déchu Mohamed Morsi. C'était en 2013. Nous irons également en Ukraine, où un nouveau président par intérim prend le pouvoir dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, dans l'est du pays. Cela fait suite à l'assassinat du chef autoproclamé Alexander Zakharchenko. Enfin, la bulle éco aujourd'hui est consacrée à la Suède et à son système éducatif. Urgence climatique, le SOS de 700 scientifiques, c'est la une de Libération ce matin. Ces scientifiques signent une tribune. Nous en appelons aux décideurs politiques face à l'urgence climatique, écrivent-ils. Hausse des températures moyennes, récurrence des chaleurs extrêmes, fonte des glaciers de la banquise, sécheresse, etc. Et le ras-le-bol dépasse largement les frontières françaises et gagne l'ensemble de la société civile. Un peu partout dans le monde, aujourd'hui, des manifestations se tiennent pour faire pression sur les gouvernements face au dérèglement climatique. Lucas Scalcriti, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'enjeu de ces manifestations?
L'enjeu est très clair. Les personnes dans la rue aujourd'hui réclament au gouvernement du monde entier d'agir contre le dérèglement climatique et d'agir également pour la fin de l'utilisation des énergies fossiles. Cette mobilisation internationale est l'expression d'un ras-le-bol généralisé. Les conférences sur le climat se tiennent annuellement et rien ne se passe. La COP21 organisée en France il y a 3 ans avait été vendue comme un succès. L'accord de Paris sur le climat se voulait ambitieux et finalement Donald Trump a décidé que les États-Unis se retireraient de cet accord. Les manifestants veulent instaurer aujourd'hui un déclic.
Et en France, le contexte est particulier avec la démission de Nicolas Hulot.
Absolument. C'est d'ailleurs en apprenant la démission du ministre de l'écologie qu'un jeune citoyen lambda, Maxime Lelon, a décidé de lancer un événement sur Facebook. Nous l'écoutons.
Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'ai vraiment ressenti dans ce que Hulot racontait que c'était pas le problème d'une personne en fait, c'était pas l'échec de Nicolas Hulot, c'était l'échec d'un ministre qui était au sein d'un gouvernement et qu'en fait, que ce soit lui ou un autre, ça aurait été pareil parce que ce gouvernement ne considère pas le climat comme une priorité.
Et cet événement lancé sur le réseau social est sobrement intitulé « Marche pour le climat ». C'est un véritable succès. À 3 heures du départ de la manifestation à Paris, plus de 28 000 personnes ont indiqué qu'elles y participeraient. 115 000 se disent intéressées sur Facebook. Par ailleurs, il faut noter que cette marche était initialement prévue samedi dernier. Elle a été décalée pour coïncider avec la mobilisation mondiale d'aujourd'hui. Et il n'y a pas qu'à Paris que des manifestations sont prévues en France. Plusieurs rassemblements vont être organisés à Lyon, Bordeaux, Rennes ou encore à Nantes.
Merci Lucas Scalcriti pour France Culture. Quand Parcoursup devient synonyme de parcours du combattant pour certains, un peu plus de 7000 jeunes inscrits sur la plateforme sont toujours sans affectation pour la rentrée dans les études supérieures. Que faire alors? Eh bien, l'espoir n'est pas perdu, les nouveaux bacheliers peuvent encore agir. Plusieurs organisations syndicales et de parents d'élèves leur proposent une aide juridique. Objectif, créer un contentieux de masse. Cette aide est disponible via le site sos-inscription.fr. Sonia Bourane.
Les candidats refusés et leurs parents sont perdus et ne savent plus quelle démarche entamer. Carole a tout essayé, son fils Johan fait partie des recalés.
J'ai appelé plusieurs fois Parcoursup, mais rien à faire. On me dit peut-être que c'est parce que les universités qu'il a choisies sont loin de chez nous. J'habite Orsay, l'université est à Orsay. Donc vous voyez, je ne peux pas faire plus près. J'ai envoyé différents courriers à toutes les personnes que je pouvais contacter à l'université d'Orsay, au rectorat, à la ministre, puisqu'on peut écrire à la ministre, mais rien.
Ça ne donne rien.
Non, on me dit c'est Parcoursup qui décide.
Mais comment sont prises les décisions? C'est justement pour permettre aux candidats de comprendre que plusieurs syndicats proposent une aide juridique pour demander des explications, comme le dit Juan Prosper du syndicat des avocats de France.
C'est la base du droit administratif, c'est la base de la relation entre l'administration et le public, c'est de pouvoir motiver une décision. Il nous faut aujourd'hui mettre la lumière sur les traitements qui ont été donnés par les établissements aux données qui ont été transmises par les étudiants dans le cadre de la plateforme Parcoursup, le paramétrage qui a été éventuellement effectué. Et aujourd'hui, le candidat doit pouvoir matériellement savoir pourquoi il a été rejeté et savoir si l'administration n'a pas commis ce qu'on appelle en droit une erreur manifeste d'appréciation dans le traitement de sa demande.
Les syndicats espèrent peser et exiger l'inscription des candidats qui auraient pu être lésés.
Et Parcoursup se poursuit jusqu'au 21 septembre, date de clôture de la phase complémentaire qui recense toutes les places encore vacantes. Trois quarts d'heure avec les Marseillais sur le Vieux-Port. Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule hier soir après sa rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Il a répondu aux questions, notamment sur l'affaire Benalla ou encore sur le carriérisme des politiques. Il a aussi échangé avec Jean-Luc Mélenchon. L'échange fait le buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le chef de file de la France insoumise n'a pas voulu dire frontalement au président qui l'accuse de mener une politique xénophobe. Il est le symbole de la répression des journalistes en Égypte. Chaoukan, 30 ans, lauréat cette année du prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO. Il avait été arrêté en 2013 pour avoir couvert la violente dispersion par les forces de l'ordre des manifestants qui soutenaient le président déchu Mohamed Morsi. Son verdict était très attendu aujourd'hui, il est tombé ce matin. Le journaliste risquait la peine de mort, il écope finalement de 5 ans d'emprisonnement. Correspondant au Caire, Martin Roux.
Dans la salle d'audience de la prison de Tora, au sud du Caire, le verdict est accueilli avec soulagement. Mahmoud Abouzeid, alias Chaoukan, est condamné à 5 ans de prison. Il risquait la peine de mort. En 2013, ce photographe d'aujourd'hui 30 ans a été arrêté au premier jour du démantèlement du sit-in de Rabat. Du nom de cette place de la banlieue du Caire où les sympathisants de Mohamed Morsi se sont réunis au lendemain de sa destitution. Au cours de ce démantèlement, plus de 800 personnes sont tuées, 739 sont arrêtées, dont les journalistes et photoreporters qui couvraient l'événement. Chaoukan était l'un d'eux. C'est donc dans le cadre d'un procès de masse qualifié de procès spectacle par Amnesty qu'il a été jugé. En juillet, la cour avait déjà prononcé 75 condamnations à mort. Elles ont été confirmées ce matin. Le verdict d'aujourd'hui concerne Chaoukan parmi les quelques 650 détenus restants. Avec lui, 200 personnes ont été condamnées à 5 ans de prison, mais des peines de 10, 15 ans et de perpétuité ont également été prononcées. Chaoukan a ainsi passé ses 5 dernières années en détention dans des conditions misérables, mais reste à savoir si la décision de ce matin tiendra compte de ce temps passé en détention provisoire. Cela pourrait mettre fin à son calvaire. Mais hélas, ce verdict ne doit pas faire oublier que le chaos de Chaoukan est loin d'être isolé puisque selon Reporters sans frontières, 42 journalistes sont actuellement emprisonnés en Égypte.
C'est la deuxième grande ville d'Irak après Bagdad, Bassora, au cœur de la région pétrolière du sud du pays. Situation toujours très tendue sur place. 4 roquettes se sont abattues dans l'enceinte de l'aéroport de Bassora, selon des sources de sécurité. Hier soir, le consulat d'Iran a été incendié. Des attaques sur fond de contestation sociale depuis plusieurs jours. Des manifestations pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics ainsi que la corruption. Depuis le début de la semaine, on dénombre une dizaine de morts. Le Parlement irakien tient aujourd'hui une réunion de crise avec le gouvernement. La Libye toujours en proie à de violents combats entre milices aux alentours de Tripoli. Les affrontements durent depuis 10 jours. Conséquence, plusieurs milliers de réfugiés et de migrants confinés dans des centres de détention sont en danger. Ils risquent d'être touchés par des tirs d'artillerie et d'obus. Cri d'alerte lancé ce week-end par l'ONG Médecins sans frontières. L'échec des pourparlers de paix à Genève sur la crise au Yémen, des discussions sous l'égide des Nations Unies. Nous n'avons tout simplement pas réussi. Voilà ce que déclare l'envoyé spécial de l'ONU. La délégation du gouvernement yéménite quitte Genève sans aucun accord. Les rebelles houthis n'ont pas fait le déplacement. Le Yémen accuse l'envoyé spécial de l'ONU d'être conciliant, je cite, avec les rebelles. En Ukraine, un nouveau remaniement dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, dans l'est du pays. Un nouveau président par intérim est nommé suite à l'assassinat du chef autoproclamé, Alexander Zakharchenko. Il s'agit de Denis Pouchilin. Les luttes de clans sont bien réelles à Donetsk et mettent en danger le processus de paix. Explication à Kiev, Sébastien Gobert.
C'est le premier chef qui reprend aujourd'hui sa place. En mai 2014, Denis Pouchilin était devenu le premier président de la première version de la République populaire autoproclamée de Donetsk. À l'époque, il était considéré comme l'un des outils d'un puissant oligarque ukrainien pour faire pression sur Kiev. Aujourd'hui, il est vu comme l'un des hommes de Moscou, utilisé par le Kremlin pour donner un semblant de légitimité au territoire séparatiste. Sa nomination en remplacement d'un premier président par intérim après l'assassinat du 31 août traduit cependant de sérieuses luttes de pouvoir à Donetsk. Deux collaborateurs très proches du défunt, Alexander Zakharchenko, sont d'ailleurs à Moscou, en exil. L'ancienne équipe dirigeante n'est visiblement plus la bienvenue à Donetsk. Une précédente lutte de chef dans la république voisine de Lugansk s'était soldée par quelques meurtres et morts suspectes. Les incertitudes quant à la succession à Donetsk devraient être réglées par des élections prévues pour le 11 novembre. En revanche, ce scrutin remet en question le processus de paix, aucune élection en territoire séparatiste ne pouvant se tenir sans être en conformité avec la loi ukrainienne. Les Ukrainiens et négociateurs internationaux s'inquiètent d'un blocage de pourparlers déjà difficile. D'autant que sur la ligne de front, les affrontements se multiplient à grand renfort d'artillerie lourde.
La Chine enregistre un nouvel excédent commercial record avec les États-Unis en août, 31 milliards de dollars. Un résultat dopé par un bond des exportations du géant asiatique et ce, en dépit de la guerre douanière engagée avec Washington. Au Japon, le bilan du séisme qui a frappé l'île d'Hokkaido dans le nord du pays a fait au moins 30 morts. Le bilan s'alourdit à 35 morts. Le tremblement de terre a provoqué plusieurs glissements de terrain. Des dizaines de milliers de secouristes poursuivent les efforts pour retrouver des survivants. Midi 40, une poignée de secondes sur France Culture. Tout de suite, la bulle éco. Elle est aujourd'hui consacrée à la Suède qui, pour son système éducatif, fait figure d'anti-modèle.
La bulle économique, Marie Viennot.
Ça y est, la rentrée est passée et ce week-end, il y a des élections en Suède. Je te salue, toi, pays le plus beau du monde, dit l'hymne suédois que vous entendez maintenant. Ces paroles, ce sont peu ou prou celles que prononcent aussi, mais pas en suédois, nos dirigeants politiques, quel que soit leur bord, depuis plusieurs décennies. Alors, penchons-nous un instant sur ce modèle suédois qui, dans l'éducation, est l'un des plus originaux au monde. Car la Suède, en la matière, a plus qu'innové. Sur la forme et sur le fond. Sur la forme, elle a décentralisé et dérégulé en un rien de temps. Le choc fut grand. Sur le fond, et c'est pour cela que la bulle économique vous en parle, la Suède a confié au privé une part de plus en plus importante de ce service public. Si bien qu'aujourd'hui, 18% des élèves suédois en primaire et 26% en secondaire sont dans le privé, contre 1% il y a 25 ans. Tout a commencé en 1989 quand l'éducation nationale a transféré aux municipalités de larges pans de sa responsabilité. Ce fut l'acte 1. Acte 2, le Parti libéral venait de revenir au pouvoir et en 1992, il supprime la carte scolaire. Les parents ont alors une totale liberté dans le choix de leur école et plébiscitent de plus en plus des écoles privées que l'on nomme là-bas « friskolor ». Vous allez dire, c'est un peu comme chez nous, sauf que non, absolument pas. En Suède, les professeurs ne dépendent plus de l'État, mais des communes ou des entreprises privées d'éducation qui les emploient. Et si les parents choisissent le privé, ils ne payent rien. L'école qu'ils ont choisie touche alors un chèque éducation équivalent au coût estimé d'un élève pour une année. Cette réforme, voire cette révolution, n'a pas été guidée par une volonté de faire des économies. Heureusement d'ailleurs, car la Suède consacre 7% de son produit intérieur brut à l'éducation et détient pour cela le record d'Europe. D'économie, il n'y a pas eu avec la privatisation partielle du système éducatif suédois, qu'on se le dise. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était d'apporter une plus grande diversité des approches pédagogiques. C'est d'ailleurs pour cela que les partis de gauche et écologistes avaient soutenu cette ouverture au privé. On devait sortir d'un carcan administré pour une école plurielle. Les syndicats de profs pensaient, eux, que la concurrence pousserait leur salaire vers le haut. Mais tout ça n'a pas eu lieu et aujourd'hui l'école est devenue un sujet de controverse récurrent et explosif dans le pays. Difficile de dire si la privatisation en est la seule cause, mais le constat est là, rien ne va mieux dans le domaine éducatif. La ségrégation scolaire s'est approfondie, les salaires des professeurs ont baissé, les vocations deviennent rares et les qualifications de plus en plus accessoires. En 2013, coup de tonnerre, un groupe privé fait faillite, laissant 35 établissements scolaires et 11 000 élèves sur le carreau. On apprendra que 3 ans plus tôt, leur propriétaire s'était partagé 50 millions d'euros avant de revendre l'entreprise à une société de capital risque. 2 ans plus tard, c'est un nouvel électrochoc. La Suède connaît la chute la plus forte dans le classement PISA qui fait autorité pour évaluer la réussite scolaire. L'OCDE consacre alors un rapport entier au système éducatif suédois. comme si c'était un anti-modèle. Les partis de gauche promettent alors de plafonner les bénéfices des écoles privées pour éviter que l'argent public ne finance des profits faits au détriment de la qualité. Ils l'ont encore promis pour cette élection, nous verrons bien. La Suède, modèle d'avenir ou l'exemple à ne pas suivre sur l'éducation, on sait maintenant au moins répondre à la question. La météo de ce samedi est largement ensoleillée. Aujourd'hui, seules quelques brumes et nuages sur le nord, la Normandie et la Bretagne. Température agréable cet après-midi, 21 degrés sur l'Île-de-France, 24 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 27 degrés à Nice.